Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, 23 juillet 2022. Bonjour Germain.
Bonjour Antoine.
Alors, tu t'es remis de notre live Facebook de cette semaine qu'on a fait en direct de chez Kenny Youpool.
Ah, c'était avec grand plaisir, franchement. Beaucoup
et
de
grande
gens...
chaleur.
Et grande chaleur, oui. Ouais. Beaucoup de gens se sont déplacés à la succursale de La Prairie. Les gens ont répondu à l'appel de venir avec un véhicule, entre guillemets, cool. Il y avait un peu de tout, des véhicules modifiés, des véhicules antiques. Bref, il y avait une belle variété de voitures. Il y a une Miata qui a retenu mon attention avec des jantes. Momo, là, qui était populaire dans les années 90.
Absolument.
Il y avait un beau Chrysler, le Baron aussi, qui m'avait l'air pas mal neuf, même si le véhicule a une quarantaine d'années.
Il y avait une Nova 78 que j'ai trouvée très belle. Évidemment, il y a quelqu'un à la toute fin qui est arrivé avec une belle petite CRX, bien modifiée.
Oui.
Alors, bref. Mais oui, c'était bien le fun, puis à refaire comme activité.
Assurément.
Évidemment, c'est notre live Facebook dans la Grosse Brune qu'on fait chaque mercredi soir. On prendra relâche deux semaines dans le mois d'août, là, parce qu'on peut prendre relâche à un moment donné dans l'année.
On s'accorde ce droit.
On s'accorde ça. Mais sinon, c'est bien le fun. Et on se dirige vers le centième épisode aujourd'hui dans Ma Grosse Brune, où là, on vous réserve quelques surprises aussi de ce côté-là. En attendant, écoute, GM qui a dévoilé cette semaine un Blazer électrique. On avait vu des sketchs.
Oui. Même des premières photos officielles de ce nouveau véhicule électrique.
C'est assez fidèle.
Oui.
C'est très particulier comme look parce que l'empattement a l'impression que c'est étiré comme ça, aucun bon sens. Mais on comprend que ce véhicule-là va carrément remplacer le Blazer actuel là, qui n'a plus sa place. Là.
Oui,
c'est des véhicules qui vieillissent.
Je ne sais pas combien de temps on conservera encore là, une version à essence du Blazer, mais cette semaine, on a dévoilé la version 100% électrique. Notre collègue Louis-Philippe s'est déplacé en Californie pour y assister. Il y a un paquet de données techniques en lien avec ce véhicule-là. Il est basé sur la plateforme Ultium, la nouvelle plateforme modulable de General Motors avec laquelle on peut bâtir n'importe quel type de véhicule.
Même des Honda.
Oui.
Même des Honda.
Je me demandais où tu t'en allais avec ça, mais oui, effectivement, c'est exactement ça.
Parce que, pour expliquer
aux gens...
Oui,
il y a un partenariat là, qui a été créé avec Honda qui
va
traîne
fabriquer...
de la patte un petit peu.
Beaucoup, mais qui va fabriquer dès 2024 le Prologue, qui sera un premier VUS électrique, mais qui sera un GM avec une carrosserie Honda.
Oui. Donc, c'est une association quand même étonnante, mais pourquoi pas. On nous a annoncé...
Vous vous souvenez? Par contre, qu'il y a déjà eu une association entre GM et Honda dans le passé.
À quelle occasion?
Parce que Honda avait vendu aux États-Unis le Acura SLX, qui était un Isuzu Trooper sous l'ère GM, et on avait vendu un Honda Passport, qui est un Isuzu Rodeo sous l'ère GM.
Mais qu'on n'avait pas eu au Canada non plus.
Exactement.
Donc, et là, le Prologue, possiblement qu'on l'aura, lui, au Canada.
Oui, ça devrait.
Mais on nous a annoncé aussi qu'on allait apposer l'écusson SS sur ce Blazer électrique. Donc, on nous promet 557 chevaux. Là. C'est substantiel, là, carrément. Il y aura des versions à roues motrices avant, des versions à roues motrices arrière, des versions à quatre roues motrices, bien évidemment.
Il y aura des roues motrices avant, des roues motrices arrière.
Oui.
C'est particulier, ça, là.
Donc version traction, version propulsion, puis quatre roues motrices.
C'est quelque chose, là.
Oui.
C'est rare qu'un même véhicule va être offert à deux roues motrices Avant ou arrière.
En fait, on pourra faire quelques recherches, là, mais ça, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Oui, c'est bien particulier. C'est bien particulier, mais c'est ce que permet, c'est cette flexibilité-là que permet cette plateforme-là. Bon, tout dépendant des versions choisies, l'autonomie variera, mais on aura jusqu'à 515 km d'autonomie. Donc,
avec une batterie qui est assez grosse.
Oui, bien entendu. C'est le secret un peu de GM, là, c'est de bourrer ça de batterie pour essayer de contrebalancer.
Mais on n'a pas confirmé la taille des batteries de ce véhicule-là.
Ben, j'allais te donner les prix, mais donne-moi un instant pour la batterie. Je ne suis pas certain, effectivement, qu'on
a donné la capacité de la
batterie. Il y aura plusieurs versions. Mais donc, dès l'été 2023, donc l'été prochain, on aura des versions 2LT et RS en tant que modèle 2024. Donc, d'ici un an, on les verra arriver avec un prix là, de 59 000 et de presque 64 000. Puis après ça, on aura des versions SS et à la toute fin, la version 1LT qui, elle, sera la moins chère. Donc, on se garde le modèle d'entrée de gamme pour la fin.
On va espérer, par contre, qu'on aura les effectifs pour en fabriquer suffisamment. Sinon, on pourrait s'imaginer que la version SS serait commercialisée, signifiant short staff.
Encore une fois, je me demandais où on s'en allait, mais je l'ai compris assez vite.
Mais c'est parce qu'on s'entend que...
Oui, ça demeure un enjeu. On est bien d'accord. Ouais. On a dévoilé aussi une version de police du Blazer électrique. On sait que la ville de Repentigny a actuellement un Ford Mustang Mach-E.
Un short sheriff.
Oui. Ça. Bon. Mais donc, on aura un véhicule là, pour les corps de police éventuellement. Ouais. Bref, on a de très grandes attentes, je pense, avec ce véhicule-là. On avait un peu raté l'arrivée du Blazer à essence, le retour, mais là, on marque un plus grand coup avec ce véhicule-là qui n'a, soit dit en passant, toujours rien à voir là, avec l'ancien Blazer. Ça va de soi. Là.
Bon, là, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que Chevrolet va lancer un Blazer qui est carrément dans la mire d'un Mustang Mach-E. Là. Ça ne peut pas être plus ciblé que ça.
Mach-E, Ioniq 5 et compagnie. Là. Tu parlais d'empattement allongé. Ouais. Là, la Ioniq 5, c'est difficile d'avoir...
J'ai plus l'impression que c'est l'Equinox qui va aller jouer sur le territoire.
Peut-être aussi. On n'a pas eu beaucoup de détails non plus sur l'Equinox. Ça suivra.
Il y a une première photo qui est sortie hier de l'Equinox. Mais bref, ça sera deux véhicules électriques qui vont partager la même plateforme et qui nous laisse deviner, évidemment, que la Bolt va disparaître. Là, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais c'est de plus en plus clair à mon esprit que l'avenir de la Bolt est sérieusement compromis.
Puis c'est drôle, hein? Chez GM, on ne nous contredit pas quand on avance ça. Hein?
Non.
Des fois, quand on s'avance un peu trop loin, on va venir rectifier le tir, mais là, on ne tape
temps,
pas sur les doigts pour nous dire qu'on attend.
Il
n'y
a rien de plus logique. Bien, puis ça vient encore une fois prouver que le marché du Québec puis le marché nord-américain, c'est pas pareil.
Ouais.
La Bolt, pour moi, c'est une des meilleures options électriques qu'on peut se procurer actuellement.
Le rapport qualité-prix, autonomie, fiabilité.
Là, je disais qu'on peut se procurer. Le problème, c'est qu'on peut difficilement s'en procurer. Ouais. Quoi qu'en parlant avec certains concessionnaires, avec un en particulier, j'ai cru comprendre qu'il y a des acheteurs de véhicules électriques à ce point désespéré qu'ils avaient donné un dépôt ou leur nom chez 5-6 concessionnaires.
Oui.
Et si
ou chez des concessionnaires de plusieurs marques.
De plusieurs marques, ce soit d'une même marque ou de plusieurs marques. Eux voulaient un véhicule électrique. Je vais aller donner un dépôt chez Kia, chez Chevrolet, chez Hyundai, peu importe. Et ils ont pris le premier qui est arrivé. Et si bien que là, on annule des commandes. Donc, il y a quelques unités, à gauche, à droite, qui deviennent soudainement disponibles et qui font en sorte qu'on accélère un peu le processus de livraison. Chez les concessionnaires, les plus spécialisés en véhicules électriques, c'est peut-être pas le cas parce que, évidemment, là-bas, la liste d'attente est très, très, très longue et c'est dur. Mais pour un concessionnaire qui est peut-être qui vend un peu moins de véhicules électriques en proportion, par exemple, en tout cas, il y a des cas isolés comme ça de gens qui se sont fait livrer, qui sont allés placer une commande, par exemple, au début du printemps cette année et qui sont sur le point d'avoir leur véhicule maintenant. C'est quand même raisonnable, mais il y en a d'autres qui vont patienter 18 mois facilement pour une Chevrolet Bolt. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est un super produit, mais que les Nord-Américains n'achètent pas.
Seulement les Québécois.
Seulement les Québécois. Puis c'est sûr que si tu me vendais une Bolt au prix de détail...
Oui, là, la combinaison des deux rabais est substantielle.
Tu sais,
là.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux...
Le prix de détail est intéressant, puis en plus, tu soustrais, après les taxes, les deux rabais. Hey, là, ça commence à être intéressant.
Ce que je veux dire, c'est que je pourrais comprendre qu'un acheteur excité par un Mustang Mach-E débourse un 70 000 $ sans se demander si c'est un bon deal. Mais si tu achètes une Bolt, tu l'achètes de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins passionnelle.
Oui.
Donc, d'aller débourser 45 000 $ pour une voiture compacte comme celle-là, ça fait mal au portefeuille. Là, si tu enlèves...
Mais là, elle revient à 34, 35.
En fait,
là,
le modèle de base, avant taxe, coûte 29 000 et des poussières.
Voilà.
Donc là... C'est le prix d'une Civic.
Oui.
Puis t'as pas d'essence à mettre.
Voilà.
Fait que c'est un peu intéressant.
On comprend les gens d'être intéressés par ce véhicule-là, là, absolument.
Ce n'est certainement pas le même acheteur que le prochain produit dont on va parler.
On en a parlé souvent. On est vraiment dans une période de transition où les manufacturiers intéressés à produire des véhicules à essence profitent des dernières minutes de cette époque-là en développant les produits les plus radicaux qui existent. Et de l'autre côté, on développe à fond la technologie électrique. Et cette semaine,
je pense que Ford est maître des contradictions parce que là.
J'allais dire chez Stellantis, mais chez Stellantis, on a juste le côté radical V8 pour le moment. On n'a pas encore le volet électrique.
Non.
Mais oui, chez Ford, on a développé l'électrique, on continue de le développer, mais on a des bolides un peu hors de l'ordinaire. Et le Ford F-150 Raptor R qu'on a dévoilé en début de semaine en fait partie. On sait que quand le Ram TRX était arrivé, ça avait jeté un peu d'ombre sur le Raptor parce que on venait l'avaler tout rond finalement.
Ouais.
On n'était plus dans la course en fait avec le Raptor, mais depuis de longs mois, les rumeurs étaient très intenses sur l'arrivée d'une version plus radicale du Raptor et finalement, ça s'est officialisé. Donc, on a carrément planté la mécanique de la Shelby GT500 sous le capot d'un F-150. C'est assez...
On a révisé la puissance à la baisse, par contre, et
oui.
Ce qui est surprenant, c'est que on a 700 chevaux.
Oui.
Alors, c'est 3 chevaux de
deux,
moins.
Deux, en fait.
2 chevaux de moins, oui. Pardon, que le Ram TRX.
Et 10 livres de pied de couple de moins. Donc, pour donner les chiffres...
Il me semble que j'aurais mis un filtre à air juste un peu moins restrictif pour les battre un peu. Là.
Oui, oui, oui. C'est comme si tu tirais au poignet, puis au dernier moment, t'abandonnais. Je ne sais pas comment on peut imaginer ça.
En même
ça.
Temps, ça ne veut pas dire que le véhicule va être moins rapide, moins efficace.
Pas du tout. Mais oui, on est à 700 chevaux et 640 livres-pieds avec le Raptor R. Et chez Ram, avec le TRX, on est à 702 et 650 livres-pieds. On devait quand même se frotter les mains de satisfaction chez Stellantis quand on a vu ces chiffres-là être dévoilés.
Mais bon, il en demeure pas moins que 700 chevaux.
Ce sera un camion très, très impressionnant.
Puis quand je dis que Ford est maître des contradictions, c'est que Ford a aussi un Lightning.
Oui, même gamme du F-150, on a cette bête à essence, puis on a ce qu'on a de plus moderne en termes de technologie.
Ouais.
Donc oui,
Lightning qui d'ailleurs commence à circuler sur les routes du Québec.
Tranquillement.
On en a vu quelques-uns.
Mais bref, on n'a pas le prix du Raptor R, mais ça suivra dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je vois pas comment ça pourrait coûter moins de 100 000 $ cette bestiole-là.
C'est évident.
Mais on continuera de suivre ça.
Si un Raptor régulier coûte 90 000 et des poussières, ajoutez-lui 200 chevaux supplémentaires. En fait, 250 chevaux supplémentaires, c'est bien évident que ça va coûter des sous.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, récemment, j'ai mis à l'essai à tour de rôle les Volvo XC40 Recharge, donc la version électrique du petit VUS Volvo, et aussi le C40. Tu avais assisté au lancement de ce modèle-là.
Ouais.
Et à ce moment-là, on était arrivé à la conclusion que le C40 au Québec n'était pas plus intéressant qu'il ne le fallait par rapport au XC40, étant donné qu'il n'était pas éligible aux subventions parce que son prix d'entrée était plus élevé, mais on le trouvait sympathique parce que sa silhouette était différente, mais
ça n'enlève rien au produit, c'est juste que la stratégie...
Mais sur le plan financier, c'était pas justifiable pour un consommateur d'opter pour un C40. Son gros avantage à son lancement, c'est qu'il était disponible comparativement au XC40 pour lequel on avait des délais. Mais là, quand est venu le temps de préparer le présent segment, on a regardé la gamme actualisée chez Volvo et soudainement, on présente une version... En fait, au moment du lancement, on n'avait qu'une seule version du C40 et là, pour 2023, on aura... trois versions du C40.
Comme le XC40.
Exactement. Donc, une version Core, une version Plus et une version Ultimate. Donc, il y aura quelques centaines de dollars d'écart entre les versions équivalentes pour les deux modèles. Donc, on peut comprendre et déduire que le C40 sera lui aussi éligible aux subventions.
Voilà.
Mais pas nécessairement pour la version Ultimate. C'est ce que j'ai bien compris.
Actuellement, si tu te procures un XC40, les modèles Core et les modèles Plus sont éligibles aux 7000 du provincial, aux 5000 du fédéral. Dans le cas de la version Ultimate, parce que son prix dépasse de plus de 10 000 le seuil des 60 000, ce n'est que le crédit du Québec qui s'applique, donc 7 000 $. On perd le crédit du fédéral avec la version la plus luxueuse. Donc, ça serait la même chose pour le C40. Pour le moment, si on va sur le site de Transport Canada, sur le site Roulez Vert, il n'y a pas d'indication encore. Ça n'a pas été mis à jour.
Donc, il y a comme une contradiction entre le site du manufacturier et les sites gouvernementaux. Ça doit s'être passé dans les derniers jours.
C'est-à-dire que le site du manufacturier n'applique pas encore les crédits.
Non. Mais quand on fait les calculs de notre côté, on comprend que ça s'en vient. Là.
Voilà. Et là, moi, j'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à un représentant chez un concessionnaire Volvo pour y voir un peu plus clair, puis il dit c'est une question de semaine avant qu'on se fasse confirmer les crédits, puis tout ça. Mais de toute façon, pour le moment, ce ne sont que des commandes, parce que les 2023 ne sont pas encore arrivés.
Bien entendu.
Et là, bien sûr, tu me vois venir, j'ai posé la question. C'est quoi les délais?
Oui.
Parce que...
c'est la question de l'heure.
Alors, il a commencé par me dire que si tu veux un XC40, c'est facilement 18 mois à 2 ans.
Wow!
Si tu veux un C40 et si tu commandes un C40 demain matin et il s'attend à ce que la version Plus soit la plus commandée.
OK. Parce que c'est la version la plus équipée qui peut être éligible aux subventions, pourra être éligible aux subventions.
Aussi parce que, comme il me mentionnait, si tu prends une version Ultimate, c'est parce que tu vas avoir le régulateur de vitesse intelligent avec conduite semi-autonome. Tu vas avoir le gros système audio, tout livré de série. Mais il y a certaines des options qui sont dans la version Ultimate, que tu peux obtenir en option séparée sur un modèle Plus.
Okay.
Ce qui fait que tu vas perdre 2-3 trucs, mais qui ne justifie certainement pas un écart de
presque 4000 entre la version Plus et la version Ultimate.
Oui, mais plus le 5000 que tu
perds. Oui, c'est ça, exactement.
Plus le 5000 que tu perds.
Donc, au final, tu le payes très cher.
Donc, si tu commandes un C40 demain matin, on parle d'à peu près 5, 6, 7 mois de délai.
Et pourquoi les gens qui ont commandé un XC40, on ne tente pas justement de les transférer vers un C40?
J'ai l'impression que le XC40, d'abord...
Peut-être un peu plus pratique, là?
Il est surtout peut-être un peu plus populaire à l'échelle mondiale. Et on a concentré les énergies un peu ailleurs. Puis c'est évident que le C40, c'est un véhicule qui a été davantage développé pour notre marché, un peu plus.
Peut-être.
On voulait séduire les Américains avec un look plus sympathique.
Oui. Et moi, ça me plaît, là, ce look-là.
Puis il ne faut pas oublier un truc. Le C40, c'est le premier véhicule 100% dédié de chez électrique.
Ils me font rire avec cette phrase-là, parce que c'est une déclinaison d'un véhicule véhicules qui étaient initialement prévus pour être alimentés à l'essence. Là. Mais oui, tu parlais d'une bouille sympathique. Moi, je trouve ça joli.
Moi, je prendrais ça avant un XC40, personnellement, même si tu perds un peu en volume cargo.
Et je ne suis pas un adepte des VUS coupés comme ça. Ouais. Tu sais, un Cayenne ou un Cayenne coupé, je vais préférer le Cayenne régulier. X3, X4, je vais préférer le X3. Mais dans le cas du C40, ça me plaît. Un mot sur la conduite. Là, je sais qu'on a passé...
MDX, ZDX.
Sans façon. un mot sur la conduite. Dans les deux cas, j'ai trouvé que les suspensions étaient complètement débordées avec ce véhicule-là. Ça rend l'expérience inconfortable.
Ben moi, je vois
ça brasse énormément, surtout à l'avant.
Mais je vais
le véhicule
un truc.
A quelques milliers de kilomètres au compteur, puis tu as l'impression que c'est tout déboîté, même si ça ne l'est pas. Effectivement, des jantes de, je sais pas, c'est 21 pouces après
le problème est là.
Il n'y a pas de pneus après ça. C'est un vrai problème.
Tout le problème est là. Et si tu prends une version Core ou une version Plus... T'as des roues plus petites, t'as des flancs qui sont plus grands et ça change complètement la conduite.
Parce que sinon, excuse-moi, là, mais c'est pas conduisable.
Ben, il n'y a pas de flanc. Non. T'as un véhicule qui est lourd avec un empattement qui est quand même assez court, puis t'as pas de flanc de pneus. Ouais. C'est sûr que ça cogne dur. La combinaison est catastrophique. Mais mets-toi un peu plus de viande au niveau des pneus, puis tu viens de régler ton problème.
Ouais.
Parce que le véhicule est très solide, le véhicule se conduit bien, il y a une super belle plage de puissance. L'équilibre des masses est intéressant aussi, parce que tu as le même moteur à l'avant et à l'arrière avec une masse au centre.
Et donc, c'est très maniable comme véhicule, la direction.
Le sac de braquage est court.
Donc c'est relativement plaisant à conduire, mais il y a ces espèces de cognements qui sont toujours présents à l'avant, puis c'est un peu pas mal dérangeant.
Cognement que j'ai constaté aussi sur la voiture que je conduis cette semaine.
Voilà, de la transition, c'est dit.
Bon, alors, cette semaine, je conduis une voiture que je trouve absolument pas belle.
Bon.
Je ne comprends pas la visée de Mercedes avec ce produit-là.
Est-ce que tu peux nommer le modèle?
Oui, c'est une AMG GT 53. Donc, rien à voir avec le coupé AMG GT. Là. On oublie ça. Là. On tente peut-être de reprendre les lignes du coupé AMG GT dans une certaine forme, mais il y a beaucoup trop de rondeur. Puis, je suis pas capable de positionner ça. Moi, donne-moi le choix entre ça et une classe E, je me pose même pas la question.
Et même une CLS, est-ce que c'est toujours offert, ça?
Oui, la CLS est toujours offerte. Alors,
qui est un coupé à quatre portes aussi.
Oui, c'est ça. Donc,
on cannibalise peut-être un peu à l'interne là, chez Mercedes.
Oui, mais en même temps, rendu dans ces sphères-là, en termes de prix, tu peux en offrir tant que tu voudras. C'est toujours payant. C'est une voiture de 155 000. Ce qui est magnifique, par contre, c'est l'habitacle et la couleur de ce véhicule-là.
C'est-à-dire?
Qui est un prune foncé, là, j'ai pas le code exact, mais qui est un prune foncé avec un niveau de métallique dedans qui est exceptionnel. Je me suis amusé à prendre un ruban à mesurer et à regarder la profondeur de la peinture. Parce que la qualité du fini est telle que tu es capable d'avoir une profondeur dans la peinture que tu verras pas ailleurs. Okay. Et ça m'a vraiment impressionné. Bon, le comportement, ça va. C'est sûr que tu démarres le véhicule, c'est un 6-cylindres en ligne, turbo compressé avec hybridation et ça sonne pas comme un V8, là, c'est bien évident.
Non.
Mais il y a quand même une belle souplesse et je te dirais que c'est la première Mercedes que je conduis depuis des années qui a une instantanéité de réaction à l'accélérateur
Pas
vu.
Pas de délai du potentiel.
Il y en a aucun. Il y en a aucun.
Donc, on aurait réglé le problème.
Bien, on l'a réglé par le fait qu'il y a un 6-cylindres en ligne.
Et l'hybridation.
Ben c'est ça. Ouais. C'est l'électrification du véhicule qui fait que tu réponds tout de suite. Parce que tu l'entends en plus. C'est que le véhicule, tu appuies, il réagit, puis après ça, tu entends le moteur à essence réagir. Donc, c'est évident que c'est l'électricité qui vient d'abord jouer un rôle là-dedans.
Mais tant mieux.
Puis ça améliore le plaisir au volant. Mais c'est sûr que c'est une voiture m'as-tu vu. Puis tu peux obtenir cette même motorisation-là dans une voiture qui est beaucoup plus sobre et qui va te donner le même niveau de performance ou à peu près. Un truc qui est intéressant, les jantes sont magnifiques sur cette auto-là. Il y a un design de
jantes. Ça ressemble à rien d'autre.
Mais le design de l'auto, je suis pas encore certain. Puis je suis surtout pas certain de comment la positionner. Est-ce que je compare ça avec une RS7?
Oui, c'est une bonne question.
Tu sais, C'est très
c'est difficile. C'est un peu unique comme produit. C'est ça, comme
exactement.
Produit,
on n'est pas dans un territoire de Panamera, peut-être.
Mais pas loin.
Mais c'est ça. Ouais. On est vraiment à la croisée des chemins, mais avec un design qui, moi, ne m'allume pas particulièrement.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, écoute, il s'est passé un truc assez particulier au cours des dernières semaines. Moi, en un peu plus de 20 ans de carrière, je n'ai que très rarement eu le constat que certains de mes collègues journalistes s'étaient fait voler un véhicule média, des véhicules qu'on essaie là, toutes les semaines.
Ça s'est passé, mais c'était plutôt anecdotique.
C'était
là.
Très rare. Écoute, je me souviens de deux épisodes, c'est-à-dire notre ancien collègue Denis Duquet qui s'était fait voler une camionnette Silverado HD en plein centre-ville. Ça, c'était en 2006 ou 2007. Et au lancement du Jeep Grand Cherokee diesel qu'on avait fait, ça c'était en 2009, si ma mémoire est bonne, autour de 2008-2009, là, dans ce coin-là.
Période non, où ça allait très bien pour l'automobile américaine.
Je recorrige, c'était en 2007.
OK. Donc ça allait encore bien.
Ça allait encore bien, c'est ça. Lors du lancement, il y a deux types qui s'étaient présentés sur le parquet de l'hôtel. En s'improvisant journaliste et qui s'était poussé avec deux Grand Cherokee flambant neufs et on les a jamais revus.
Ils sont partis faire des photos et ils sont jamais...
C'est exactement, t'as tout compris.
Dans les derniers mois, il y a aussi un collègue photographe qui avait en sa possession un Jeep Gladiator. On sait, c'est un véhicule prisé les voleurs. Et ce véhicule était bêtement stationné devant chez lui et le lendemain matin, oh, il n'était plus là.
Exactement. J'ai aussi mon collègue Vincent Aubé qui s'était fait voler dans la cour chez lui, quatre roues.
Des roues, hein? Oui,
des
c'est
roues
ça.
De Audi TTS qu'il mettait à l'essai. Et il a entendu... Il s'est fait réveiller par un bruit, mais lorsqu'il est sorti dehors, le véhicule s'était poussé, puis il n'y avait plus de roues sur l'Audi. Ce qui est assez difficile aussi pour un remorqueur, soit dit en passant, là, parce que pas de roues, ça va mal. dans les derniers 15 jours... Il y a trois véhicules médias qui se sont fait voler. Alors, trois collègues journalistes à nous qui se sont fait voler des véhicules. Un Toyota Highlander hybride, un Honda Passport et un Honda Pilot.
Donc, trois VUS prisés.
Japonais, oui. Fiables, véhicules recommandés et qui pourraient peut-être se retrouver quelque part en Afrique.
Si ce n'est pas déjà fait.
Un bateau, c'est pas si vite que ça.
Mais en tout cas, il pourrait déjà être sur le bateau, ça c'est certain. C'est ça. Si ça fait trois semaines, le véhicule pourrait déjà être sur le bateau.
Puis, tu sais, on se rend compte que le vol de véhicules est un fléau qui a changé au fil des années. La façon de voler des véhicules n'est plus la même. Là, il fut une époque où on volait des véhicules pour des joyrides. Oui. On volait des véhicules pour en faire des boîtes. C'est-à-dire, dans le jargon, on disait des boîtes. C'est-à-dire, tu prends le numéro de série d'un véhicule que tu as accidenté qui n'était pas assuré. Tu en voles un identique. En bon français, tu switches les médailles, tu échanges les numéros de série et puis tu as un beau véhicule neuf réparé au lendemain. Ça, tu vois ça de moins en moins aussi parce que c'est de plus en plus complexe de le faire. Des réseaux de voleurs organisés qui vont voler ton véhicule en 30 secondes en numérisant le code de ta clé.
On en avait parlé avec notre collègue journaliste de JE plus tôt cet hiver qui avait fait un reportage et qui avait suivi un véhicule qui s'était rendu justement outre-mer.
Oui, exactement. Il était même capable de détecter le code. C'était un Lamborghini Urus, si je me souviens bien. Il était capable de détecter le code du véhicule en mer.
Ah oui?
Mais rendu là, il n'y avait plus rien à faire parce que tu es en eau internationale puis tu n'as plus de juridiction. Fait que, bref, il y a un réseau de vol de véhicules qui est très important, qui opère à Montréal. Et encore une fois, Montréal, c'est la plaque tournante pour les vols de véhicules parce qu'on a le port à côté et parce que c'est peut-être plus facile d'acheminer un véhicule volé que si tu le récupères au Manitoba.
Et surtout, qu'est-ce que fait la police?
Absolument rien.
Rien, voilà. Alors, c'est pas une grosse tape sur les doigts si jamais tu te fais prendre.
Tu sais, c'est ça. C'est pas... si tu te fais prendre, tu te fais prendre, mais j'imagine que c'est la loi de la moyenne. Puis j'ai pas l'impression que le pourcentage de voleurs qui sont pris versus le nombre de véhicules qui sortent est très, très, très...
Puis encore là, on va coincer le petit voleur, mais pas nécessairement les membres organisateurs du réseau, là, parce que, justement, c'est des organisations maintenant qui volent les véhicules.
Ah oui, exactement. Et là, bien, évidemment, ça m'a amené, moi, à me reposer la question sur l'efficacité des systèmes de sécurité des véhicules, qui est complètement nulle.
Oui.
on sait même pas pourquoi ils appellent ça un système anti-vol, parce que si un voleur est capable de déjouer ça en 15 secondes ou en 30 secondes, mais tu sais, moi, il y a un représentant de chez Toyota qui m'avait déjà dit, à mot couvert, sauf que le couvert tient plus parce qu'il est à sa retraite aujourd'hui, il m'avait dit, écoute, on serait fou là, d'améliorer les systèmes. On sait qu'on vend un Forerunner, puis qu'on va probablement en vendre un deuxième.
Mais c'est être un peu de mauvaise foi, là.
Oui, mais en même temps, t'es une entreprise.
Oui, t'sais. Oui. Ton but, c'est de vendre le plus de véhicules possible, bien entendu.
Remarque, ils n'ont pas plus travaillé sur le développement d'une nouvelle transmission, là, parce qu'ils ont, encore un Forerunner avec une 5 vitesses, puis c'est à peine si les radiocassettes n'est pas encore là. Mais fait que c'est pas comme s'ils avaient travaillé sur l'évolution du véhicule non plus. Mais il en demeure pas moins que, tu sais, c'est ça. Les compagnies font pas grand-chose. Puis il y a toute une série d'avantages à ce que les vols de véhicules existent. Les concessionnaires vendent plus de véhicules. Le gouvernement va récupérer plus de taxes aussi.
Oui, parce que sur ce nouveau véhicule neuf qui va vous être livré, vous allez payer des taxes.
Ben voilà. Fait que tu sais, il n'y a pas nécessairement grand monde.
Il n'y a que le consommateur qui est perdant. Là.
Ben oui, complet sur toute la ligne. Lui, les primes d'assurance, tout ce que tu voudras. Puis là, ben en plus, arrive ce problème beaucoup plus actuel de ne pas pouvoir remplacer le véhicule volé parce qu'il n'y en a pas chez les concessionnaires. Mm-hmm. Et j'ai parlé cette semaine avec notre invité, Pierre Lévesque, qui est président de Vitre Expert, du réseau Vitre Expert. Lui propose un système antivol qui s'appelle Domino, qui est carrément...
Qui n'a rien à voir avec la pizza du même nom.
Là. Non, non plus. C'est un système qui est concurrent direct de Tag qu'on connaît depuis des années. Et puis il m'a présenté un peu le produit et je trouvais ça particulièrement intéressant d'avoir cette alternative là sur notre marché. Pierre est avec nous. Salut Pierre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous autres.
Bon, écoute, d'abord, avant que tu me parles du produit Domino comme tel, sors-nous donc une série de statistiques que tu as accumulées, parce que c'est assez intéressant ce que tu as à nous dire là-dessus.
Bien, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très important, puis ce que vous disiez, il y a plein de points que je disais, j'aimerais intervenir, parce que c'est vrai que le vol organisé de la pièce de véhicule, la vente outre-mer, c'est vraiment extrêmement fort. 60 % du parc automobile est quasiment dans la région de Montréal. Dans ce parc-là, ben
on parle au Québec, là. Des
vols... Oui, oui, oui. C'est vrai, tu as raison. Merci de le dire. 40 % des véhicules qui sont retrouvés au port viennent de Montréal. Tu as à peu près un 30 % qui vient du reste du Québec, puis tu as un autre 30 % qui vient de l'Ontario. Et par moment, il y a des véhicules qui viennent de l'Ouest canadien. Souvent, c'est envoyé, comme vous avez dit tantôt, au Moyen-Orient, en Afrique. Il y a un très haut pourcentage que c'est des SUV, juste en 2021, c'était 5800 SUV, dont 40% étaient des CRV. Donc le véhicule...
40% des VUS qui ont été volés, c'était des CRV quand même.
À Montréal, oui.
Mais on a vu des histoires de gens qui s'en sont fait voler un, en ont racheté un autre, se sont fait voler le deuxième, etc., etc.
Oui, exactement.
Oui, puis ce que vous mentionnez avec les systèmes, les nouveaux systèmes de démarrage... Ben, c'est la statistique, c'est vraiment en 18 secondes, avec un amplificateur de signal à clé, tu es capable de voler le véhicule. Ouais. Donc, c'est extrêmement rapide que ça peut arriver. Puis on voit justement l'augmentation des vols. Ça avait diminué durant le COVID avec le confinement. Le pourcentage de vols, le montant d'argent et tout avait diminué dans cette année-là, mais ça a repris vers la hausse, puis on est dans des 25-30 % d'augmentation de vols de véhicules. Donc, la demande est forte. Il y a un marché là-dedans. C'est sûr que les véhicules, ben, dans l'ordre, c'est souvent ça, c'est CRV, Ford F-150, Lexus, après ça, on vient avec un Honda Civic, Toyota Highlander, Toyota Tacoma. Fait que là, on voit, c'est dans ces véhicules-là qu'on a plus de vols. ce qui est souvent la donnée qui parle beaucoup, c'est quand tu dis au Québec, c'est un véhicule toutes les 15 minutes qui est volé. Puis tu dis à travers le Canada, ça représente combien d'argent? C'est 1 milliard de dollars par année.
C'est incroyable.
Donc, c'est quand même, c'est des chiffres super imposants. Puis on parlait de taxes, bien c'est sûr, si tu imagines, c'est 1 milliard de dollars de volé. Si on rachète 1 milliard de véhicules fois la taxe, on s'entend que ça représente beaucoup d'argent. Fait que c'est peut-être une des choses où ce que son cadre cette année avec la pénurie de véhicules, on sait, là, c'est pas ça fait pas 6 mois, mais ça fait quand même longtemps qu'on manque de véhicules. Les gens maintenant sont plus en, pas parce que l'assureur le demande, pour eux autres, quand tu as vécu un vol, puis que l'on dit que tu n'auras pas ton autre véhicule avant un an et demi, c'est pas une situation qui est le fun. Ben, t'as oublié des effets personnels dedans, t'es mal pris, là.
Oui, puis je veux dire, moi j'ai parlé à des gens qui se sont. Ils ont eu un sinistre. Que ce soit un accident ou que ce soit un vol de véhicule, un assureur va prendre en charge l'assuré pour une période d'à peu près 30 jours. Puis après ça, arrange-toi, Charlie.
Mais en ce moment, quel véhicule on peut te livrer à l'intérieur de 30 jours?
Ben, c'est-à-dire que
quelques modèles ciblés, mais pas nécessaire.
Si tu fais voler ton véhicule, on va te trouver un véhicule de location pendant 30 jours. Puis après ça, c'est fini. Là.
Oui. Donc,
on n'extensionne pas. Organise-toi. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire parce que la quantité de CRV qui sont volés, là. Tu sais, Honda se vantait de vendre beaucoup de CRV. Est-ce qu'on a vendu 3-4 000 CRV de plus qu'on aurait dû juste parce que les autres se sont fait voler? Tu sais, c'est peut-être ça aussi, là.
C'est pas
parce que
possible,
c'est incroyable, la quantité. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que notre collègue Jacques Deshaies, que je salue, me mentionnait, lui s'est fait voler un Highlander chez lui sur son terrain, un véhicule de presse, et sur la même rue que chez lui, le même jour, se sont fait dérober 2 CRV.
Ah oui, OK.
Fait que il y a des gars qui sont passés par là, puis en bon français, ils ont spoté le produit, puis ils se sont organisés avec ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Bon, évidemment, on connaît le système TAG qui s'appelait Boomerang, là, qui s'est appelé Boomerang, qui est devenu TAG. Explique-nous, Pierre, comment ça fonctionne d'abord, le TAG, puis comment Domino fonctionne, parce que c'est deux systèmes qui fonctionnent de façon différente, là.
Ben, on va parler de technologie, parce que, tu sais, pour moi, d'aller avec... Parce qu'il y a quand même quelque chose... À partir du moment que tu as un système de repérage, que ce soit TAG ou Domino,
ouais.
Le pourcentage de ces véhicules-là qui se font voler est beaucoup moins élevé, puis c'est un pourcentage qui est extrêmement élevé. Là, on parle d'au-dessus de 90 % des véhicules qui ont un système de repérage...
Juste parce qu'ils sont identifiés comme tels.
Oui, puis qui ont le système dedans, là, parce qu'on le sait, il y en a des fois qui mettaient des écriteaux sur le véhicule, puis il n'y avait rien dedans, puis les voleurs le savent aussi. Là. Mais si on regarde dans les systèmes de repérage, tu diminues de beaucoup les chances de te faire voler ton véhicule, contrairement aux autres.
OK.
Après ça, ben, des technologies, ben, c'est sûr que TAG, on le voit même sur leur site, ils parlent de RFID, là, qui est de la radiofréquence, qui est le système, puis... Si vous avez regardé un peu les reportages, souvent lorsqu'un véhicule est déclaré volé, c'est parce que ça s'enclenche pas automatiquement. Là. C'est pas parce que là, le véhicule vient d'être volé que tout le monde est au courant. C'est que tu t'aperçois que ton véhicule est volé. Donc, si tu t'en aperçois rapidement, ça augmente les chances de le retrouver. Tu le vois, tu appelles, ça active les gens. Puis dans le système TAG, c'est des véhicules qui partent sur la route avec des systèmes sur le toit par l'intérieur technologique. Puis par triangulation, on réussit à trouver le véhicule. Pour être capable d'aller de pouvoir dire bon, on a trouvé ce véhicule-là, qu'on voit souvent les publications, qui sont souvent dans le coin du port de Montréal aussi.
Ce qui est assez ironique, c'est que les véhicules TAG souvent sont des 4Runner.
Ouais.
J'ai l'impression, là, ceux que je croise, je sais pas si c'est un addon, mais ça semble être souvent d'être des 4Runner.
Je sais pas s'ils se font voler, ceux-là. Enfin,
j'ai l'impression que peut-être un peu moins.
Mais
ça pourrait être vraiment comique de voir d'avoir l'exemple que tu as un système comme ça sur ton véhicule, tu te le fais voler. Ça serait pas intéressant de la compagnie TAG, mais si on vient à nous, tu sais, la radiofréquence, c'est une technologie qui fonctionne très bien. C'est juste que dans l'évolution, on a la technologie GPS. La technologie GPS, c'est encore la même affaire. Lorsqu'on s'aperçoit que le véhicule est volé, on appelle à la centrale et eux activent en ce moment-là directement le positionnement. La grosse avantage, c'est que ça active le positionnement sans avoir quelqu'un qui saute dans son véhicule puis cherche le véhicule. Ça active à 5 mètres près. Il est où le véhicule? Et si le véhicule se déplace, on voit comment il se déplace. Donc, peu importe ce que tu es au Québec, parce qu'on sait, là, je pense que la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde la vit. Je ne sais pas si partout au Québec, lorsqu'un véhicule est volé, il y a vraiment des gens qui sont dans des véhicules tout le temps disponible pour être capable d'aller trouver le véhicule.
C'est un sacré bon point, ça, parce que effectivement, moi, j'avais fait cet exercice-là, si tu me permets, Pierre, j'avais fait cet exercice-là il y a une dizaine d'années, à l'époque où ça s'appelait Boomerang comme technologie. Mais il faut qu'il y ait des gens qui partent sur la route pour le trouver, ton véhicule.
Avec un grand territoire à couvrir, là.
C'est moi, il m'avait installé, j'avais un Honda CR-V à l'époque. Bon, qui c'était moins volé dans ce temps-là, oui, là, mais ça. C'était pas le même type de véhicule, c'était des modèles carrés. Là, les petits, bon. Alors, il m'avait installé un système Boomerang sur mon camion et il m'avait dit, va te perdre dans la jungle, puis on va te trouver.
La jungle étant à la rive nord de Montréal.
On était dans Côte-Vertu, okay. Là, dans ces coins-là. Et puis,
ils ont fini par t'encercler.
J'étais allé me stationner devant un immeuble à condo là, quelconque. Et puis, ça a pris 20 minutes, ils sont arrivés, ils étaient là.
OK.
Fait que, okay. Tu sais, ça fonctionne.
Mais il y avait quelqu'un qui s'était mobilisé à ce moment-là pour ton cas qui était un cas d'exemple.
C'est ça.
Là.
Fait que, tu sais, s'il y a 3-4 véhicules qui se font voler en une heure dans un même secteur, veux pas, t'es dépendant.
Ouais.
T'es dépendant de ce réseau-là. Puis, oui, effectivement, comme Pierre, tu le mentionnes, bon, la pénurie de main-d'œuvre, ça affecte tout le monde et probablement, y compris ces gens-là. Tu sais, c'est ça. C'est un problème qu'il faut contourner, là.
Puis, tu sais, je dirais, souvent, je donne la comparaison. On prend le tunnel à Montréal. Des fois, tu vas perdre ta radio en plein milieu.
Ouais.
Mais ton.
C'est ancien un peu plus longtemps que d'habitude, d'ailleurs.
Oui, parce que tu es bloqué là.
C'est ça.
Mais tu sais, ton GPS, par contre, sur ton téléphone ou dans le véhicule, le GPS, lui, il sait encore où tu es.
Mm-hmm.
Donc, il y a une différence de qualité de connexion entre de la radiofréquence et un GPS. Donc, c'est un gros avantage. Puis, tu sais, le véhicule volé peut être un véhicule qui est à cette île. À cette île, je suis certain qu'il n'y a pas des gens qui vont sauter dans le véhicule pour essayer de trouver le véhicule, là. Tandis que ben, le système de repérage va permettre de le retrouver. Et ça se fait pour l'automobile, mais ce qui est le fun, c'est que ça se fait pour tout. Un bateau, une moto marine, une moto neige, toutes les choses qui peuvent être volées avec le système Domino, on peut le mettre un élément qui permet de pouvoir le repérer. Et à tous les mois, on reçoit on a trouvé telle affaire. Dernièrement, on a retrouvé à Blanc-Sablon un équipement qui valait 304 000. Tu peux retrouver tous les éléments. Je suis certain que celui qui a été trouvé en mer, il devait avoir un système GPS parce que, tu sais, il ne va pas avoir des bateaux qui se promenaient en triangulation sur l'eau pour trouver le véhicule.
Non,
c'est peu probable.
Probablement.
Ça va être plus en technologie GPS.
Ouais.
C'est plus ça. Moi, je pense qu'à la base, d'avoir un système de repérage, tu viens diminuer tes chances de te faire voler. Puis avec un système qui est GPS, mais surtout dans un cas où tu veux être sûr qu'on trouve ton véhicule parce que tu n'as besoin et qu'il n'y en a pas sur le marché, mais au moins, tu as beaucoup plus de chances de le retrouver avec un GPS.
Avant que tu nous présentes la technologie Domino, j'étais pas familier avec ce nom-là. Est-ce que c'est reconnu par les compagnies d'assurance aussi bien que les concurrents?
Absolument. Peut-être que vous connaissez Vinlock. Le fond, Domino. Domino, c'est la même compagnie, c'est Domino Vinlock. D'ailleurs, lorsqu'on installe un Domino, il y a un Vinlock automatiquement qui est fait sur le véhicule aussi en même temps. Donc, pour justement protéger 100% là, de le vol. La technologie, ça fait plus de 5 ans qu'ils développent dans l'industrie, dans le marché. Oui, ils sont reconnus par les assureurs. J'ai même fait un exercice, puis c'est le fun parce que je peux donner ces chiffres-là, c'est nos chiffres à nous. Moi et mon associé Tristan, on a chacun un Nissan. Puis j'ai un Nissan Murano 2018, puis lui un Nissan Frontier 2022. Puis avec Intact Assurance, on a demandé c'est quoi notre rabais. Et le rabais était similaire à celui de TAG, ce qui veut dire que, sauf que mon rabais était plus élevé sur mon Murano. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai un 2018, puis lui, un 2022, sa valeur est plus grande. Mais le rabais, moi, était de 167 $, et sur le véhicule, mon associé, c'était 100 $.
Fait que, annuellement.
Il y a un élément aussi qui est, oui, d'économie. Ce que ça nous donne, un peu comme donné, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas économiser plus qu'un autre? Bien, ton véhicule, est-ce qu'il est plus volé que l'autre? Est-ce qu'il est plus choisi? Où est-ce que tu es localisé? Es-tu dans un endroit où est-ce que le vol est plus élevé?
Ouais.
Un endroit que le vol est moins élevé? Dans le fond, ce qu'il faut juste voir, c'est est-ce que ce véhicule-là est populaire pour la pièce aussi?
Ouais.
Plus un véhicule est vendu neuf, plus il est cherché dans la pièce aussi, usagé. Donc, c'est sûr que c'est un élément qui peut changer de quoi. Parce que dans ce cas-ci, le véhicule de mon associé est beaucoup plus cher, mais l'économie avec le Domino ou avec la Tag est plus élevée avec le Nissan Murano 2018.
Moi, je mettrais un domino sur ta transmission, Pierre, de ton Murano, juste pour être sûr.
Comme ça, quand elle va briser, on pourra la repérer facilement.
C'est ça.
Mais... Tu nous parlais d'économie là, d'une centaine et voire même un peu plus en termes d'économie. Combien coûte justement le système Domino? Est-ce qu'on paie une fois à l'achat ou c'est une forme d'abonnement mensuel? Comment ça fonctionne?
C'est un frais unique, 349 $, excuse-moi. Vous avez le système et le marquage de fait. C'est automatiquement connecté avec la centrale avant que vous quittiez. Aucun frais annuel. Il y a une garantie de 5 ans dessus. Après 5 ans, la seule chose qu'on fait, si vous avez encore le véhicule, c'est qu'on peut à distance valider, voir si le système est toujours fonctionnel à 100%. Puis là, on tombe juste dans un frais de connexion, je pense, d'une quarantaine de dollars, là, 49 $,
okay.
Après 5 ans. Mais tu sais, on s'entend qu'après 5 ans aussi, le véhicule devient moins intéressant pour le vol aussi. Mais c'est un seul frais, pas d'abonnement à payer pour ça.
Comment ça fonctionne? Vous installez différents modules sur le véhicule? Est-ce que les voleurs connaissent ce système-là et sont capables de facilement le déjouer?
On s'entend que le déjouer, on peut le mettre de différentes façons. Est-ce qu'on met quelque chose pour empêcher les fréquences d'émettre? C'est sûr que le GPS est beaucoup plus difficile à contrer que de la radiofréquence à ce niveau-là. L'installation est toujours faite, parce qu'à toutes les fois qu'on fait des installations, c'est des installations confidentielles. Il n'y a jamais personne qui assiste à nos installations.
Ouais.
Il y a des endroits différents qui sont placés sur le véhicule. C'est difficile à repérer où ce qui est. C'est sûr que si on voudrait vraiment être tannant, ben, quelqu'un qui en installe beaucoup va pouvoir donner de l'information peut-être. Mais je peux vous dire que de la façon qu'ils sélectionnent leurs installateurs, ça doit pas être de quoi qui est arrivé jusqu'à présent.
Toi qui es familier avec ce monde-là, je sais que ça sort peut-être un peu de ton champ de connaissances. Quelle est l'efficacité de boîtes comme celle qui s'appelle Faraday, là, si je me trompe pas, pour c'est une autre technique là pour empêcher de se faire voler un véhicule. Est-ce que tu as pu essayer cette manière-là?
Ben, là, c'est sûr que la question que je voudrais préciser, que la boîte Faraday, c'est-tu la partie où tu mets tes clés dans une boîte?
C'est ça.
Exactement. Donc, le véhicule est stationné devant la maison, bon, il y a une trop grande proximité entre la clé et le véhicule, mais en mettant la clé dans cette petite boîte-là, dans la maison, ça va
bloquer les fréquences.
Bloquer les ondes, les fréquences. Là.
C'est sûr qu'il n'y a pas de data qui dit à quel point qu'il y en a moins qui se font prendre avec ça. Mais tu sais, j'ai ce système-là, j'en ai un. Moi, c'est pas tout à fait la même affaire, mais c'est une pochette spécialisée qui coupe les fréquences.
Et t'as encore ton véhicule?
Oui.
OK.
Oui.
Donc, ça marche.
Je l'utilise, mais je vous dirais que des fois, on oublie. On a plus qu'une clé. Tu sais, moi, l'autre clé est ailleurs dans la maison. Je m'en sers jamais.
Ouais.
Tu sais, il faudrait que j'en achète un pour chacune de mes clés pour éviter justement de vivre ce désagrément-là. Mais oui, ça fonctionne.
Et Pierre, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Puis évidemment, on rappelle aux gens qu'ils peuvent se procurer ce système-là à travers tout le réseau Vitre Expert. Et ça peut être installé à domicile, là, si j'ai bien compris.
On peut le faire avec une unité mobile. On a un outil de prise en rendez-vous en ligne, même pour le Domino. Fait que quelqu'un va sur notre site et il peut prendre rendez-vous directement sans avoir à appeler à quelqu'un. Ça peut se faire facilement.
Parfait. Merci beaucoup, Pierre.
Merci.
Au plaisir.
OK, bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Antoine, il reste quelques instants à l'émission. On va répondre à quelques questions des auditeurs. On a André qui nous demande si tu recommandes l'achat d'un Chevrolet Equinox 2015 à moteur à 6 cylindres.
Oh là là. Non.
Bon.
Non, parce que...
Question suivante? Non, non.
Pas parce que c'est un mauvais produit, quoique c'était pas particulièrement impressionnant, mais la consommation de ce véhicule-là est gargantuesque. On parle de facilement 15 litres au 100.
Et avec le prix du litre d'essence, ça devient un enjeu considérable.
Tu sais, on se demande pourquoi ça consomme autant. Le mariage moteur-transmission avec le rouage intégral dans ce véhicule-là était une catastrophe. On avait retrouvé aussi cette technologie-là dans certains produits Cadillac. Moi, je me souviens d'avoir conduit, par exemple, une CTS à moteur 3.6 et 4 roues motrices. Ça roulait à du 14-15 litres au 100 aussi. C'était effrayant. La consommation de ça avait aucun bon sens. D'ailleurs, on n'en a pas vendu tant que ça, même si à cette époque-là, les 6 cylindres étaient intéressants. Puis... le rival direct de ce produit-là, en quelque sorte, c'était le Journey avec le 6 cylindres, oui, qui lui aussi consommait beaucoup avec le V6.
Absolument.
Et qui était beaucoup plus économique en version à traction. Donc, on va pas là. C'est évident qu'il y a mieux sur le marché. Je comprends que ça peut être intéressant sur le plan financier parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde qui cherche ça.
Mm-hmm.
Mais vous allez payer cette économie-là en compensant avec une consommation d'essence très élevée.
Rapidement, on a Rémi qui est à la recherche d'une voiture sport compacte à rouage intégral. Il hésite entre une Mitsubishi Lancer Evo, une Subaru WRX STI et une Ford Focus RS. Ta préférence entre les trois?
Ben, écoute, là, rendu là, c'est une question de goût personnel.
Et d'historique du véhicule, là, j'aurais tendance à dire, là, parce que...
Les trois, ce sont des voitures radicales, mm-hmm, très performantes. La Lancer Evolution est une voiture fantastique au niveau dynamique, mais qui ne fait aucun compromis. Et là aussi, la consommation n'a aucun bon sens. Là, on peut jouer dans les 17-18 litres au 100. Là, une Evo, là, c'est épouvantable. J'ai envie de te dire WRX STI, parce que c'est la plus répandue, parce que ça sera la plus facile à entretenir. Aussi, une Ford Focus RS, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis, je ne paierais pas plus cher. C'est-à-dire que les performances d'une Focus RS ne m'impressionnent pas plus que celles d'une WRX STI.
Mais encore là, bon, c'est ouais, des modèles qui, âgés de quelques années, on peut l'imaginer. C'est des voitures qui demandaient à être fouettées, à être battues.
Ouais, puis là, c'est mon autre interrogation, c'est que là, vous allez acheter ça d'occasion.
Ouais, ouais, ouais.
Je connais pas.
Faites vos devoirs.
Je connais pas personne qui a acheté ça pour rouler ça tranquille comme on achète. Je te parle d'une journée, là.
Ouais, ouais.
C'est ça. C'est ça, on n'est pas là, là. La WRX STI me donne l'impression d'être aussi la voiture la plus solide.
Oui.
J'irai chez Subaru.
Merci Antoine.
Bonne semaine.
Cube Radio.